17h-19h, on s'explique avec Jesse Michel.
Juin violet, nos mairies s'illuminent en violet. Pourquoi? Le soir, bien sûr. Hein, vous avez du violet sur votre mairie, et vous posez la question. La réponse, c'est maintenant pour mettre en lumière la maladie de Verneuil. Connaissez-vous Verneuil? Mal connue des médecins et du grand public, la maladie de Verneuil concernerait pourtant au moins 1% de la population française. 10 000 malades ici à La Réunion. Comment détecter cette maladie? Accompagner les malades au mieux au quotidien? Comment? On s'explique avec vous et nos invités jusqu'à 19h sur la première.
17h-19h, on s'explique. Vos appels au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000.
Et bien sûr, vos réactions au standard, vos témoignages aussi également au 02 62 99 2000. Le plaisir d'accueillir l'association AFRH. Bonjour vous deux, vous êtes un couple, Marie-France Brudapret et Marc-Antoine Bru. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir,
bonsoir Marie-France.
Jessie.
Bonsoir à tous. Marc-Antoine.
Bonsoir Jessie.
À deux, ça fait plus de, c'est une belle aventure, hein, plus de 30 ans, c'est ça Marie-France?
Alors,
à vos côtés.
Ça fait exactement, oui, ça fait, on va fêter nos 39 ans de mariage déjà, mais 40 ans qu'on est ensemble, et mais c'est surtout 33 ans avec la maladie de Verneuil au milieu dans notre couple.
Ouais, c'était pas forcément le fleuve tranquille, hein, Marc-Antoine.
C'est pas nécessairement facile, mais c'est le rôle de l'accompagnant, ouais, justement d'être là pour les bons moments et être là aussi pour passer les mauvais.
Mmh. Accompagnant, je retiens ce terme. C'est accompagnant, terme. Marie-France, bien sûr. La maladie de Verneuil.
Oui.
On ne connaît pas.
Mais... Oui, mais on
et
est d'ailleurs
plus,
là pour faire changer les choses.
On ne connaît pas Marie-France en plus, mais on sait que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur.
C'est vrai.
Donc, il faut absolument sensibiliser.
Exactement, et c'est tout l'objet justement de ce juin violet, qui est un peu à l'image donc de l'octobre rose pour le cancer du sein. Essaye donc de mettre en lumière en effet cette pathologie qui, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, touche 1% de la population.
Et 10 000 personnes qui seraient atteintes donc dans cette maladie.
Absolument.
Ici à La Réunion.
On est donc au-delà des 1%, si on, ouais, fait bien le calcul.
Ouais.
Et en fait, c'est tout simplement aussi parce qu'on a un taux de diabétique ici à l'île de La Réunion qui est tristement supérieur à la norme nationale.
Donc le diabète serait en lien avec cette maladie?
Alors, disons qu'il y a un lien, c'est-à-dire que quand vous êtes diabétique et que vous avez la maladie de Verneuil, l'interaction entre le diabète et la maladie de Verneuil fait que ça peut aggraver. Et donc le fait déjà d'arriver à équilibrer un diabète permet d'améliorer, disons, la maladie de Verneuil. Donc c'est pour ça que dans le cadre des dépistages que nous organisons actuellement, on propose aussi des dépistages du diabète.
Alors déjà, on va faire connaissance avec, avec cette maladie, si vous voulez bien, parce que c'est votre quotidien, mais pour nos auditeurs, la maladie de Verneuil, oulala, c'est peut-être même pour certains la première fois qu'ils entendent ce mot, en fait, et ce nom, parce que c'est un nom, Verneuil, mais c'est aussi un nom médical, c'est hydrozadénite suppurée.
C'est exactement ça.
Voilà.
Oui, absolument.
Alors c'est quoi exactement?
Alors, pour être déjà une information de base, c'est donc une maladie de peau, une maladie cutanée qui est une maladie chronique, ça veut dire qui dure dans le temps, on ne sait pas encore la soigner, et qui est donc inflammatoire. Donc maladie dermatologique cutanée, donc inflammatoire.
Donc c'est quoi? C'est un bouton? C'est
donc ce sont des abcès, des nodules, des kystes, on va les appeler de mille et une façons, parce que c'est vrai que c'est compliqué de mettre un terme sur ces lésions-là. Ce sont donc, on va dire, pour être simple, des nodules, des kystes, qui sont principalement localisés au niveau des aisselles, au niveau donc de la poitrine, que ce soit autour de l'aréole des seins, entre les seins, sous les seins, au niveau de la zone génitale d'une manière globale, pour les hommes comme pour les femmes, et au niveau fessier aussi.
Mm-hmm.
Ça peut aussi être derrière les oreilles et la nuque. Ça, ce sont les principales zones. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Verneuil, une fois qu'elle est déclenchée, elle peut en fait toucher toutes les parties du corps. Les seules qui ne le seront jamais, c'est la paume des mains et la plante des pieds.
D'accord, ce sont les seules régions du corps qui vont être épargnées par cette,
voilà,
cette maladie de Verneuil.
Mm-hmm.
Oui,
Oui, c'est impressionnant.
Mmh. Alors, mais justement, quand on regarde, alors, dans le monde, 75 millions de malades, en France, 674 000 oui. Personnes atteintes de cette maladie de Verneuil. Mais vous m'avez donné d'autres maladies et d'autres chiffres. Bah et là, on peut se questionner, en fait. VIH, hein, donc on sait oui. C'est le sida, oui. 150 000 malades. Mmh. Mucoviscidose, 6 000 malades. Oui. Sclérose en plaques, 100 000 malades. Mmh. Et quand on regarde le chiffre de la maladie de Verneuil, 674 000 malades.
Et pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler.
Pas.
Oui,
bah
oui. Mais soyons très clairs, vous avez une réponse à ça, d'après vous ?
Moi, je l'ai.
Alors,
je vous écoute.
Et on est en train, justement, de mettre un terme à tout ça, c'est en faisant de la médiatisation, oui. Tout simplement. Tant qu'on ne parlera pas de cette pathologie, tant qu'on ne la mettra pas en lumière, justement, tant qu'on n'informera pas le public, comment voulez-vous que les gens puissent en entendre parler ? Et ce qui est très, très important, surtout, c'est que les malades aient l'impression qu'on parle d'eux. Parce que vous savez, quand on n'a pas le sentiment d'être reconnu, déjà que c'est une maladie qui est invisible, hein, c'est ce qu'on appelle handicap invisible, le simple fait aussi de savoir qu'on n'en parle pas, eh ben ça vous aide pas en fait à pouvoir en parler déjà dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, dans votre cercle professionnel. Tout ça fait que c'est extrêmement compliqué. Et donc, en brisant en fait ce tabou, ce mur du silence, il est bien évident qu'on va pouvoir améliorer tout ceci.
On aime beaucoup briser les murs, vous savez.
Ah oui,
les
moi
tabous.
Aussi. Moi la première.
Sylvie est avec nous et elle souhaite réagir. Sylvie, bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Sylvie.
Voilà, ma question est la suivante. Est-ce que c'est un problème génétique, la maladie ? Moi je me pose la question, c'est quoi cette maladie-là ? Et après, je me dis, bon, bah, avec tout ce que nous entendons en ce moment, Nina, le Covid, autre chose, déjà, on n'a jamais trouvé certaines solutions à certaines maladies.
Donc, Sylvie, avant de poursuivre, est-ce que oui. Vous pouvez baisser votre retour de radio ou de télé, enfin, autre que vous avez derrière vous, s'il vous plaît ? De couper
d'accord,
ce retour-là,
vous...
parce qu'il y a de l'écho, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, juste pour un confort d'écoute. Le temps qu'elle a eu tourné son petit... Juste une précision, c'est pas oui. D'aujourd'hui cette maladie. C'est une précision, parce qu'elle
absolument.
Parle de Covid et compagnie.
1854.
Voilà. Juste Sylvie, on précise une chose, que ce n'est pas une maladie, on va dire, récente.
Absolument.
Hein
oui, oui.
Marie-France va nous donner cette information-là. Déjà, c'est une maladie qui date, elle était, Marie-France.
Son nom, Verneuil, vient de Aristide Verneuil, un chirurgien qui l'a décrite en 1854.
1854, vous imaginez ?
Ouais, oui. D'accord. Ouais. 1854, ben oui, ça fait... Oui. D'accord.
Ouais.
Donc, moi, je dis... ma question est la suivante pour essayer de comprendre un petit peu, parce que moi, question santé, je dis 2022, je vis que pour la santé. Et je fais pas mal de choses pour ma santé à moi-même, personnellement. Hein. Et après, ben je veux dire... la question est la suivante... comment savoir si on est atteint de cette chose-là ?
Ah, ben voilà. Mais de toute façon, toutes les questions que vous allez vous poser, moi, je vais les poser aussi, hein, pendant 2 heures, je crois, jusqu'à 19h. Mais c'est bien que Sylvie s'y intéresse et puis il pose la question, effectivement.
Oui. Exactement.
Alors, quels sont les symptômes, en fait, de cette maladie de Verneuil ?
Je voudrais savoir les symptômes,
voilà.
Tout ça, parce que, donc, c'est peut-être comme la chlamydia qu'on nous dit, tout ce truc des MST, tout ça. Moi, je pense que on nous dit de faire des examens pour la chlamydia, tout ça, des choses qui s'en suivent. Moi, je dis peut-être que j'ai un petit truc dans ces gènes-là, quoi. Mm-hmm. Voilà, quoi.
Alors, les symptômes, on va revenir dessus, Marie-France, les symptômes
cette
maladie de Verneuil.
Les symptômes, c'est ce qui d'ailleurs va définir le diagnostic qui repose uniquement sur 3 questions. Donc, ces 3 questions, c'est vous arrive-t-il d'avoir des abcès, des boutons, on va dire, qui sont donc oui ou non. Deuxième question, ces boutons, ces abcès, reviennent-ils au moins 2 fois en 6 mois ?
Et ces boutons et ces abcès, vous pensez, vous dites, soyons crus, c'est sur l'appareil génital de la femme ?
Alors justement, et c'est la 3e question, sont-ils localisés ? Et parmi les zones, en effet, dans lesquelles ils sont principalement localisés, il y a en effet les zones génitales, que ce soit chez la femme ou chez l'homme d'ailleurs.
Oui, 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 oui.
Voilà. Donc, en effet, si vous posez la question par rapport à l'appareil génital, en effet, ça peut, on va être, est-ce qu'on peut se permettre d'être, de citer, voilà, les.
Oh bah, oui. De toute façon, ah bah, il faut appeler
un chat un chat, on va dire, voilà. Donc, oui, oui. Ça peut toucher en effet, donc, les grandes lèvres, les petites lèvres, oui. Ça peut toucher donc le pli inguinal, c'est-à-dire l'endroit où l'élastique de la culotte va passer. Oui, oui. Ça va toucher le pubis. Ça va aussi toucher chez les hommes, ben donc la peau des testicules, le fourreau de la verge. Mm-hmm. Chez eux aussi le pli inguinal et donc la zone périnéale. Donc c'est vraiment la sphère génitale réellement est atteinte. Oui, oui. Après ça peut toucher au niveau de l'anus. Le pli interfessier, voilà, donc les fesses, enfin, ça, vraiment, quand on parle de la sphère génitale, on englobe toute cette zone-là.
Et moi personnellement, mesdames, j'ai des pertes blanches aussi, ça c'est...
Non, après toutes les femmes ont des... mais je pense que là on a les symptômes, les localisations, il faudrait voir maintenant vers le médecin.
Alors,
une fois qu'on a répondu, Marie-France, à ce questionnaire de trois questions finalement, c'est très simple. On fait quoi?
Eh bien généralement
on va voir le médecin.
Oui, tout à fait. On va avoir un médecin. Donc là, dans le cadre de Jean Violet, on a souvent nous on a des barnums avec donc toute une salle d'examen qui permet justement de rencontrer un professionnel de santé qui va pousser l'examen un tout petit peu plus loin, vous remettre une feuille que vous remettrez vous-même à votre médecin. Et en fait,
le médecin traitant.
Oui, absolument. Dans un premier temps, votre médecin traitant qui va ensuite vous rédiger une lettre et vous diriger vers un dermatologue.
Alors, si c'est sur les parties génitales, excusez-moi, je me permets, est-ce qu'on peut aller voir un gynéco?
Oui, bien sûr.
Oui, voilà, d'accord. Vous posez la même question, madame.
Oui.
Est-ce qu'on peut partir voir un gynéco?
Oui, voilà, oui. Marie-France.
Oui, absolument, on peut voir un gynéco. Mais c'est vrai que c'est quand même une maladie dermatologique et que la logique veut généralement que les dermatologues la connaissent mieux que les gynécologues.
Que les gynécos, voilà. D'accord. Et quelle différence entre un gynéco et un dermato?
Alors, un gynécologue va s'occuper de tout ce qui est donc la maternité, la sphère génitale, enfin tout ce qui concerne les problèmes qui sont liés à cet endroit-là. Ça peut être aussi même une endométriose, etc. Aussi, un gynécologue peut aussi faire cela. Après, un dermatologue va, lui, s'occuper de tout ce qui concerne la peau. L'organe
la peau.
Voilà, donc ça peut être la sphère génitale, mais ça peut être aussi au niveau du bras, du dos, des aisselles, etc.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Sylvie, une autre question, parce qu'on a du monde, ça réagit au standard
sur cette maladie de
Verneuil.
Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, merci beaucoup.
Merci pour votre appel, merci beaucoup. Allez, alors s'il y a un doute, effectivement, c'est direction le médecin, mais... Alors, il y a un petit mais. Ah. Les médecins, bah oui, dans les préparations aussi, on voit que les médecins et même le grand public, donc même les médecins ne connaissent pas cette...
Oui,
cette,
mais à leur décharge,
charge, hein, mais
absolument.
Partie,
Non, mais à leur décharge, alors, il faut dire qu'il y a énormément de pathologies quand même, soyons clairs. Donc, on l'enseigne essentiellement au dermatologue. Donc, qui la connaît bien, le dermatologue, c'est pour ça que je proposais à cette dame de plutôt se diriger d'abord vers un dermatologue. Ça semble évident qui, ensuite, en fonction de la localisation, pourra de toute façon, avec un courrier, la diriger éventuellement vers un gynécologue et puis vers d'autres spécialistes. Mm-hmm. Parce que malheureusement, ça ne se cantonne pas qu'à la sphère dermatologique.
Oui.
Mais donc, c'est vrai que le dermatologue est celui à qui on enseigne. C'est triste parce que je pense qu'en effet, c'est une pathologie, vu sa fréquence, qui devrait être enseignée de manière globale dans l'enseignement général de la médecine. Ça commence à se faire de plus en plus. Et en effet, voilà. Mais c'est plus en ce qu'on appelle en EBU, c'est-à-dire en enseignement post-universitaire, que les médecins sont formés sur cette pathologie.
La maladie de Verneuil, on a tout plein de choses à dire sur cette maladie de Verneuil que forcément on ne connaissait pas, peut-être avant l'émission, mais on est là pour informer. On s'explique avec la présidente de l'association AFRH, Marie-France Brudapret, et Marc-Antoine Bru. Et Geneviève qui souhaite intervenir. Bonjour Geneviève, bonsoir.
Bonjour.
Oui.
Je voudrais vous poser une petite question.
Allez-y, Geneviève.
La dame là, elle est géniale, mais moi, on a 74 ans.
Oh oui.
j'ai un peu de diabète aussi, j'ai mis l'insuline. Et puis, je voulais savoir les démangeaisons, par quoi il vient.
Ah ben, les démangeaisons, c'est vrai qu'elles sont liées à cette maladie. C'est une maladie qui provoque, alors il y a un terme scientifique qui s'appelle le prurit.
Mais c'est pas parce que ça gratouille que ce
voilà,
on a la maladie de Verneuil.
On est d'accord, on est d'accord.
Je voulais savoir si c'est comme un genre d'allergie. Là, c'est là, mais déjà, été des autres places aussi. Je voulais savoir si c'est pas un allergie ou quoi, parce que là, je peux plus manger rien. faut m'y prendre pas coup de deux cachets d'allergie. Et ça, si je mange les fruits de mer ou bien le porc.
Alors c'est différent. Non, c'est voilà. en fait, ce n'est pas une maladie qui fait suite à quelque chose que vous auriez mangé, une allergie quelconque. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond et ancré dans votre peau. Donc non, ça n'a pas de relation. Je vous rassure.
Alors on vous rappelle les symptômes des nodules cutanés douloureux à répétition, des abcès qui suppurent, hein, qui peuvent et avec possibilité de formation de cicatrices parce que il y a plusieurs degrés. Dans la maladie,
il y a trois stades.
On en parlera, dans un instant. Vous souhaitez réagir au standard 02 62 99 2000, posez vos questions donc à la présidente de l'association AFRH et Marc-Antoine Bru qui est avec nous aussi également. Alors la maladie de Verneuil, on l'a vu. Quelles sont les causes, Marie-France?
Question. Ça, on aimerait beaucoup le savoir.
D'accord.
Donc, on commence un petit
Parce qu'on ignore, en fait, à l'heure d'aujourd'hui.
Non, on commence quand même, heureusement, il y a quand même des recherches qui font, qu'on s'approche de plus en plus d'une connaissance de l'origine de cette pathologie. Donc, on a parlé de causes génétiques. Tout à l'heure, il y a 42% de formes de maladies, donc de formes familiales et donc qui concernent donc des familles entières. Tout le reste, ce sont des formes spontanées. Donc, on ne peut pas expliquer uniquement avec la génétique. Il y a probablement des raisons environnementales, des raisons immunitaires, et enfin, il y aurait aussi des raisons de stress qui vont aussi aggraver la maladie. Mais toutes ces causes, en fait, sont intriquées les unes dans les autres et font que c'est compliqué. Pour être un peu clair, c'est comme si vous aviez des molécules qui s'appellent des cytokines au niveau de la peau qui vont créer des protéines qui vont se mettre sur le cul-de-sac du poil. Le poil, en fait, est enfermé dans une gangue. Hein, voilà. Ça va, en fait, se mettre sur la base de ce poil. Ça va bloquer, ça va créer donc ces protéines. Un blocage donc de la glande sudoripare qui va gonfler, éventuellement s'infecter et créer ces fameuses cavités, ces coques qui correspondent à des abcès. Voilà.
Et là, donc, tout s'infecte, on voit qu'elle s'étale.
C'est
la plaie,
pas une obligation,
en fait.
L'infection. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question, parce que l'infection n'est pas systématique. C'est-à-dire que vous avez des cavités qui peuvent laisser écouler soit de la lymphe, donc un liquide transparent, un peu collant, très légèrement jaune. D'autres fois, ça va laisser s'écouler du sang. Et d'autres fois, ça peut devenir avec du pus. Là, c'est plus par une surinfection qui viendrait donc de notre propre colonie saprophyte de la peau. C'est-à-dire, on vit tous avec des bactéries qui nous protègent. En fait, leur rôle est de nous protéger de l'extérieur. Et quand on commence à avoir ces développements, comme je vous disais, en profondeur, en fait, quand il y a ces lésions qui vont tuer la glande sudoripare, créer ces abcès, les bactéries qui sont sur la peau vont venir surinfecter. Voilà.
Donc il y a plusieurs degrés,
c'est un enchaînement, c'est un cycle qui fait que la maladie, une fois qu'elle commence, il faut évidemment faire en sorte de casser ce système avec des traitements adaptés.
Alors pour nous en parler, nous avons Jessica qui est d'accord pour témoigner, parce que Jessica est une patiente, donc elle est atteinte de cette maladie.
Aussi,
voilà. Jessica, bonsoir.
Bonsoir
Jessica.
Bonsoir,
merci de nous rejoindre sur cette émission qui parle de la maladie de Verneuil. Expliquez-nous un petit peu ce que vous subissez au quotidien.
Alors du coup, moi la maladie c'est vraiment déclarée depuis à peu près 10 ans. Alors du coup Marie-France a dû bien vous en parler, on met quand même plusieurs années aujourd'hui à pouvoir avoir un vrai diagnostic. Moi j'ai vu différents médecins, dermatologues, médecins traitants, et le diagnostic a été très compliqué. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir l'association de la maladie qui nous permet d'avoir un soutien et une meilleure connaissance. Et donc moi au quotidien ça se manifeste par des abcès douloureux. Sur les parties, les aisselles, ça peut être sur la poitrine, à l'entrejambe. Et voilà, puis aussi un facteur qu'on évoque pas assez souvent, c'est aussi la maladie est également associée avec des troubles liés à la dépression. Donc c'est une maladie quotidienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de traitement miracle pour cette maladie. C'est une maladie aujourd'hui qui est encore trop peu connue. La recherche progresse, mais ça prend encore du temps. Mais il n'y a pas vraiment de traitement aujourd'hui qui nous permet de dire qu'on en guérira un jour. Donc on teste aujourd'hui des médicaments. Moi j'ai commencé depuis à peu près 6 mois un nouveau traitement qui se fait par perfusion à l'hôpital. Donc je suis régulièrement hospitalisée par rapport à la maladie. Et après on sait qu'il y a d'autres facteurs effectivement qui évoluent, qui jouent sur cette maladie, comme le stress, l'alimentation, l'activité physique. Donc voilà, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution, mais grâce à la recherche, grâce à l'association, on arrive à trouver des petits bouts de solutions qui nous permettent aujourd'hui de tenir bon et d'être ensemble pour aujourd'hui vous parler de cette maladie.
Mmh. Merci en tout cas Jessica de nous décrire un petit peu. Alors on va aller plus sur votre quotidien à présent. Vous me paraissez quand même assez jeune, donc il y a 10 ans, la maladie, c'est déclaré, c'est ça ? Ce qui veut dire que on peut la voir très jeune en fait finalement.
Alors, j'ai 32 ans, la maladie s'est déclarée à peu près, en tout cas, elle a toujours existé parce qu'il y a un côté génétique, mais moi, c'est vraiment déclaré il y a 10 ans après l'adolescence. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de diagnostics. Et finalement, quand j'y repense, lorsque j'étais en 5e, lorsque je faisais du vélo, j'avais déjà des aptés, mais on me disait c'est parce que je fais trop de vélo. Donc, en fait, il y a eu plusieurs explications. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était simplement une maladie de Verneuil qui naissait au fur et à mesure et qui s'est vraiment déclenchée il y a à peu près une dizaine d'années.
Donc question, elle peut apparaître à tout âge, Marie-France, cette
Absolument.
Maladie.
C'est-à-dire que là, on a des enfants dès 6 ans déclarent la maladie. Nous avons le cas d'une petite fille de 10 ans qui a déjà, Marc-Antoine peut vous en parler, a eu 2 interventions chirurgicales. Donc ensuite, on a une autre dame qui a 82 ans aujourd'hui, qui l'a déclarée véritablement à l'âge de 77 ans. D'accord. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle touche les hommes, les femmes, les enfants, et surtout qu'elle peut se déclarer n'importe quand, et que donc tous vos auditeurs peuvent quelque part aussi se dire « personne n'est à l'abri, c'est pas parce que je ne l'ai pas encore déclenchée que je ne la déclencherai pas ». Je le souhaite à personne, bien évidemment, mais le fait d'être informé fera que si vous êtes informé, vous saurez à ce moment-là prendre le taureau par les cornes et vous irez voir votre médecin. Surtout, allez voir votre médecin.
Oui, mais à partir de quand on peut se dire « Ah tiens, il faut que j'aille voir un médecin ».
Tout simplement.
Pas à ce qui s'apparente d'un furoncle. Je veux dire,
non,
un furoncle,
on est bien d'accord.
Je vais
revenir sur le diagnostic qui est clinique.
D'accord.
3 questions. Vous arrivez-vous d'avoir des abcès ? Est-ce que vous en faites au moins 2 en 6 mois ? Sont-ils localisés dans les zones dont nous avons parlé ? 99,8% de risque que ce soit un Verneuil.
Et si c'est
rien
que les aisselles, par exemple, il n'y a pas sur les parties génitales.
Une des zones, mais oui,
une seule des zones. Ah oui.
2 abcès qui reviennent en 6 mois.
D'accord.
C'est
ça,
rien
ça veut
d'autre.
Dire que
oui.
On a forcément.
Vous imaginez le nombre de Verneuil qui s'ignorent ?
Ah oui.
Eh oui.
Vous souhaitez réagir à cette émission ? On s'explique et on aimerait avoir vos réactions à ces paroles là de Marie-France quand même. C'est quand même assez surprenant. Mais on va aller voir sur les réseaux sociaux parce que je pense que ça doit réagir aussi également avec Tatiana. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir
Jessie. Pardon. Et Michel aussi. Hein, parce qu'on est deux. On a les deux.
Oui, c'est ça.
On a les deux.
Bonsoir à tous en tout cas.
Bonsoir.
Et pour réagir effectivement, Pascal déplore un manque de médecins spécialisés pour cette maladie. Il a fallu plusieurs années pour qu'on lui fasse le bon diagnostic. Il a vécu tout ce temps sans savoir ce qu'il avait et quoi faire pour au moins soulager ses maux, dit-il. Léa, atteinte de cette maladie, nous fait part de son expérience et dit « C'est une maladie chronique, certes, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien faire. Grâce à certaines mesures simples, Léa nous confie avoir des moments sans symptômes et ça fait du bien, dit-elle. » Et enfin, Sabrina dit qu'il faut insister sur le fait qu'il ne faut pas avoir honte de cette maladie. C'est justement lorsqu'on n'en parle pas que l'on s'isole avec cette saleté de maladie.
Ah très bien, merci beaucoup Tatiana. Donc effectivement, il y a de bonnes réactions enfin sur les réseaux en tous
Absolument.
Les cas, ils osent en parler hein, de dire mais voilà, il faut oser
du moment
en avoir honte.
Exactement. De toute façon, il n'y a aucune raison d'en avoir honte et je voudrais revenir peut-être sur ce qu'avait dit l'auditrice tout à l'heure, rien à voir avec les MST, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, elle n'est pas contagieuse.
Et rien à voir avec un manque d'hygiène par exemple.
Rien à voir avec un manque d'hygiène puisque comme je vous l'expliquais, c'est en profondeur en fait que le problème se situe et ensuite ça gagne la surface. Et même, vous savez, aujourd'hui, les médecins en sont presque arrivés à dire que c'est peut-être même un trop d'hygiène, parce que vous savez, quand vous avez des démangeaisons très fortes, qu'est-ce qui soulage ? C'est de se laver, d'aller sous l'eau. Et donc, en fait, du coup, on se prive de cette fameuse colonie dont je vous parlais qui nous protège sur la peau en se lavant, en ayant des fois des savons trop agressifs. Mm-hmm. C'est presque un trop d'hygiène, je dirais.
Jessica, qu'on va libérer dans quelques instants aussi.
Avec
Jessica
plaisir.
Est avec nous. Le quotidien, même Jessica, partager l'intimité avec une personne. Donc c'est un peu compliqué, ça.
Bah effectivement, c'est clignoter, ça reste une maladie. Alors oui, même si on n'en a pas honte, parce qu'aujourd'hui on peut prendre la parole, on peut en parler, ça reste quand même, pour certaines personnes qui le vivent difficilement, ça reste une maladie handicapante et qui reste physiquement marquée. Alors même si ce sont des parties qu'on ne dévoile pas forcément, mais ça reste quand même des parties intimes, et ça peut parfois jouer un rôle sur notre vie intime.
Mais justement, l'intimité, c'est ça, l'intimité. Compliqué.
Exactement, ça peut jouer. Oui, ça peut être très compliqué lorsqu'on est en phase de crise. On peut avoir beaucoup d'abcès sur les parties intimes. Et voilà, et je pense que c'est aussi important de mettre en avant le rôle des aidants. Pour notre cas, c'est nos compagnons qui aujourd'hui ont un peu ce rôle d'infirmiers, qui s'occupent de nous, qui nous font les pansements. Voilà, il y a ce rôle-là aussi, il y a nous, mais il y a aussi tous ceux qui nous entourent, qui sont présents pour nous, qui nous soignent, qui nous apaisent quand on en a besoin, quand on a des coups de mou, lorsqu'il y a des hospitalisations, et voilà, c'est aussi important de pouvoir les mettre en valeur.
Mmh. Jessica, vous parliez de dépression tout à l'heure, hein, vous avez employé le mot dépression. Est-ce que des personnes qui sont atteintes de cette maladie de Verneuil, elles sont plus fragilisées, certes, mais il y a des personnes qui vont vers la dépression comme ça, facilement?
Oui, donc il y a des études qui se sont faites sur ce sujet-là, et en tout cas le médecin qui m'accompagne actuellement au CHU m'a indiqué que 40% des personnes qui ont la maladie de Verneuil déclarent un syndrome dépressif également. Donc voilà, je pense qu'effectivement tout y est joué. Il y a le stress, il y a plein de aujourd'hui de choses qui font qu'on peut déclarer cette maladie, et voilà.
Mmh. Merci beaucoup Jessica, je sais que vous avez
Merci
rendez-vous
avant
18h, donc on vous libère. Merci en tout cas pour votre beau
Merci
témoignage.
Beaucoup.
Merci,
Merci
Jessica. À très vite. Ah, on parle d'accompagnant, Marc-Antoine Bru, mmh. qui est la compagne de Marie-France. Comment
je
ça se passe?
Je suis le compagnon accompagnant.
Oui, voilà.
Tout à fait.
Ouais, c'est beau, hein, l'accompagnant.
Disons que c'est vrai que la maladie de Verneuil, c'est un troisième larron dans le couple. Voilà, il est là et il vient
passer,
quand
hein.
il décide de venir.
On aurait pu s'en passer.
On aurait pu largement s'en passer. Mais il décide, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il vient, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il repart.
Donc c'est par crise, hein, c'est ça, on l'a bien compris depuis
poussée,
tout à l'heure.
C'est par crise. Voilà. Quand on est dans les deux premiers stades, stade 1, stade 2, quand on est en stade 3, une des caractéristiques, ce sont les poussées permanentes. Donc là, on rentre dans des choses qui sont encore plus difficiles. Mais dans les premiers stades, un stade 2, c'est déjà un stade qui est pas négligeable. Hein. Faut pas minimiser les choses. Un stade 1, on pourrait s'imaginer que c'est un nodule par-ci, par-là, une fois de temps en temps. Le problème, c'est que le vécu du malade est différent des uns des autres. Quand on parlait tout à l'heure de dépression, 40% de dépression, oui, parce qu'il y a des gens qui, avec un nodule, vont être catastrophés, parce que c'est fatigant, c'est douloureux, ça peut être dans des endroits qui sont intimes, et le rapport de l'individu avec son intimité est très personnel.
Non, mais on imagine de toute façon la douleur, parce que déjà, oui. quand vous avez un furoncle, s'il est mal placé, ça fait hyper mal.
Oui.
Donc on imagine la oui. douleur, hein, de ce que vous êtes en train de
C'est pour ça que dans le couple, c'est important que l'accompagnant sache, soit au courant, connaisse la pathologie aussi bien que le malade. Parce qu'il doit réussir à comprendre. On ne peut pas se mettre à la place du malade. Ce n'est pas possible. On ne comprendra jamais la douleur, on ne comprendra jamais la fatigue, on ne comprendra jamais l'appréhension qu'on peut avoir de cette pathologie. Parce qu'on parle des douleurs, on parle, mais il y a aussi les écoulements, il y a aussi l'odeur, il y a aussi... Enfin, il y a quand même... C'est un panel qui n'est pas très ragoûtant, comme on dit. Et donc, l'accompagnant, il est là justement pour être là quand il faut, savoir se retirer quand il faut aussi, être à côté. Dans le domaine de l'intimité, quand il y a des périodes où c'est difficile, où c'est douloureux, eh bien, on trouve d'autres choses. Ça fait 40 ans qu'on est en couple, ça fait 30 ans que Marie-France a développé la maladie, et ça fait toujours 30 ans qu'on est ensemble. Donc c'est que c'est possible, et non seulement dans ces 30 ans où elle a été malade, et pour rappeler qu'elle est non contagieuse, c'est que moi je ne suis pas atteint de la maladie de Verneuil. Ça ne nous a pas empêchés, même si les enfants on les a eus avant, mais enfin, ça ne nous a pas empêchés d'avoir une vie de couple. Mais c'est une vie de couple différente. Mmh. Elle est différente. Parce qu'on parle de la vie de couple, mais ça touche aussi la vie sociale. Quand vous êtes malade de Verneuil et que le matin vous déclenchez une crise alors que vous êtes invité le soir chez des amis ou au restaurant ou autre et que vous ne pouvez pas, eh bien forcément, il va falloir à un moment donné expliquer que la sortie qui était prévue, ben on va l'annuler, on va la repousser. Vous faites ça une fois, vous faites ça deux fois, vous faites ça trois fois. Eh ben, socialement, on va vous oublier.
Voilà, Jessica parlait d'isolement. Hein,
tout à fait.
Tout à l'heure,
c'est ça.
Donc, ouais.
C'est ce fameux isolement social et le compagnon, il est là justement pour faire le lien entre le malade qui, s'il ne s'isole pas lui-même, va être isolé. Isolé professionnellement parce qu'il peut se retrouver licencié. Ça a été le cas de Marie-France. Donc il y a cet isolement-là, je dirais, extérieur. Les amis qui ne vous invitent plus parce que, tu te plains, tes petits boutons, tu n'es jamais avec nous, chaque fois qu'on t'invite, tu ne viens pas. Une fois, deux fois, trois fois, puis après, ils ne vous invitent plus. Tout simplement. Et donc le compagnon, l'accompagnant, il va être là pour justement faire le lien. Et c'est pour ça qu'il est important d'en parler. Parce que si l'entourage ne sait pas et ne comprend pas, il ne peut pas comprendre le malade. C'est pas possible. Et donc, l'accompagnant va faire le lien. C'est lui qui va faire en sorte que le lien social continue, perdure. Parce que, il va faire, je dirais, oui, le lien social, il est indispensable. Indispensable.
Alors on le voit, alors Jessica aussi disait que voilà, les pansements, etc. Donc là, on a le côté physique, hein, soutien physique, des plaies, etc. Et puis alors le soutien moral.
Oui.
Donc qu'est-ce que vous dites à Marie-France quand il y a des crises?
Après justement, soutient, c'est là où c'est le couple. C'est là où le couple est important. On peut ne rien avoir à dire. On peut se mettre en retrait, laisser, parce qu'il y a ceux qui ne supportent pas qu'on leur adresse la parole quand ils ont mal, ce que je comprends. Il y en a d'autres qui ont besoin, au contraire, de réconfort. Il faut. C'est pour ça que, malheureusement, chez Mme de Verneuil, il y a beaucoup de séparation, énormément de séparation, parce qu'il arrive un moment donné où les gens ne se comprennent plus. Le malade et l'accompagnant ne se comprennent plus et n'arrivent plus parce qu'ils ne perçoivent pas la pathologie comme étant cet étranger qui vient foutre le bazar, comme on dit, dans le couple. Et c'est important, justement, de l'accompagnant. Il est à la fois le mari, il est à la fois l'ami, parce qu'il y a des fois, il ne peut être qu'un ami.
L'infirmier.
Celui qui écoute. Il est à la fois l'infirmier.
Le psy.
Il peut être le psy. Il est tout ça. Et c'est vrai que ce sont des rôles que dans des couples, et on a nous suffisamment d'anecdotes en 22 ans d'existence de l'association.
On en voudra peut-être tout à l'heure, une petite anecdote.
De rôle où le compagnon tourne la page en disant, écoute, moi je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je suis pas psy, je suis pas... Donc soit tu es ma femme, soit tu l'es pas. Mais arrive que malheureusement, la femme ou le mari, parce que les hommes sont aussi touchés, quand c'est pas possible, c'est pas possible.
Mm-hmm. On me dit que Patrice est au standard. Donc, Patrice, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Patrice. Alors, on parle de cette maladie hein, de Verneuil.
Oui.
Que vous connaissez?
Oui. Je connais très, très bien, en plus.
Alors, j'imagine bien. Hein, comme on dit, quelqu'un qui ne s'invite pas, mais il est quand même là. Racontez-nous un petit peu, Patrice, alors, concernant cette maladie de Verneuil. Alors, il me semble, Marie-France, alors attendez Patrice, que ça touche plus les femmes que les hommes. Oui. Mais là, on a un exemple que, voilà, qu'il y a un homme, il y a un homme de toucher.
Il y a un sexe ratio de 3 femmes pour un homme.
Oui. Donc, Patrice, comment ça s'est déclaré?
Moi, ça a commencé par des douleurs, des boutons, poussées de boutons. Et à un moment donné, les boutons s'est mis à éclater. Il y avait du pus, du sang et tout qui sortait. Et que ça sentait vraiment très, très mauvais. Après, de fil en aiguille, j'ai fait des opérations par-dessus opérations. Et après, on m'a diagnostiqué la maladie de Verneuil début 2010, si je ne me trompe pas.
Mais vous êtes resté un petit moment comme ça, avec des boutons, etc., en pensant que ce n'était pas franchement une maladie, c'était juste des boutons? Ou alors c'était vraiment... Ouais.
Je pensais que c'était des boutons de jeunesse qu'on avait. Et
l'acné ou ce genre de choses-là, oui.
Voilà. Ouais. Mais c'est avéré après que les médecins ont fait les recherches et tout, des analyses. Et là, ils m'ont diagnostiqué la maladie de Verneuil.
D'accord. Ouais. Donc alors, Marie-France?
Oui.
Donc diagnostic, qui peuvent arriver tard aussi?
Généralement, le délai de diagnostic actuel est de 8 années. 8 ans. Vous savez, c'est exactement le délai de diagnostic d'une maladie rare. Avec 1% de la population, on est loin d'être dans le cadre d'une maladie rare. C'est 1 pour 2000, hein, une maladie rare. Donc, on revient toujours pareil à ce problème déjà d'éducation des professionnels de santé et enfin d'éducation du public, tout simplement aussi, hein. Donc, c'est vrai que les patients, ils se disent « Oh, c'est un petit bouton, je me suis rasé, je me suis épilé. »
Oui, c'est ça, on minimise, en fait.
Pour les hommes, au niveau de la barbe, tiens, c'est un poil, voilà, un poil de barbe qui pousse à durer. Bref, enfin,
il y a... C'est un poil qui peut pas percer, donc
voilà,
du coup, ça fait des boutons.
Exactement, de l'acné, on va penser, enfin, beaucoup, beaucoup de choses, parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes choses dont on parle. À la télé, on vous montre les pubs, allez, pour pas avoir d'acné, pour pas avoir la peau qui brille, pour pas avoir ci, pour pas avoir ça. Donc, évidemment, les gens pensent à toutes ces pathologies dont on parle fréquemment. Il n'y a rien de surprenant à ça. Donc, du coup, ils ne vont pas voir leur médecin, ils vont se soigner avec tout ce qu'on leur montre d'une manière globale dans les informations.
Et Patrice, quand on vous a annoncé cette maladie de Verneuil, c'était quoi votre réaction?
Moi, comment vous êtes senti? C'était mettre fin à ma vie.
Pardon?
Tentative de suicide. C'était tentative de suicide.
Ah oui, oui. Ah, carrément. Ouais. Vous étiez à quel stade? Parce que alors Marc-Antoine parlait du stade 1, 2, 3. Il y a 3 stades apparemment, c'est ça? Vous étiez à quel stade,
Patrice?
Oui, c'est
Patrice? Ça, c'est 3, oui. 3 stades.
Moi, je suis au stade de niveau 3.
Le plus sévère.
Voilà. Donc, alors, je vous dis clairement, pour avoir vu des photos de Marie-France, effectivement... C'est brutal, hein, c'est violent,
ouais.
Mais c'est très grave. Effectivement, là c'est... Alors Patrice, donc stade 3.
Oui.
D'accord. Et après, qu'est-ce que vous aviez eu le soutien de la famille, Patrice? Comment ça s'est passé? Donc là, on le voit, c'est...
Moi, le soutien, je l'ai eu auprès de mes infirmières libérales, qui me suivent jusqu'à maintenant, même pour le diabète et tout. Après, c'est ma copine et les petits-fils.
Voilà, c'est la famille. Voilà. C'est la famille qui vous a soutenu, qui continue d'ailleurs à vous soutenir. Hein.
Oui.
D'accord. Voilà. C'est passé. Alors, est-ce que le stade 3 peut passer on va dire, allez hop, on revient à stade 1 ou comment ça se passe, Marie?
Alors, c'est une très très bonne question.
Non, c'est pas ça, c'est qu'on regarde, on voit que ça ne se guérit pas. Ça, c'est quand même...
Non, mais alors, je vais vous expliquer. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 stades. Le premier stade, c'est celui où il y a le plus de patients. Déjà, pour rassurer la population, 75% des malades sont en stade léger. D'accord. Donc ça, c'est quand même important de rassurer aussi nos auditeurs pour pouvoir leur dire vous n'allez pas finir.
Attention, pas pour deux furons que ça y est, on est parti sur la maladie.
Mais par contre, c'est vrai qu'il faut les prendre.
Quand même.
Il faut les prendre très vite dès le départ.
Bref. À suivre.
Aujourd'hui, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans la mesure où on ne sait pas pourquoi on passe d'un stade léger à un stade modéré ou à un stade sévère.
Ah, on ne sait pas.
On ne sait toujours pas pourquoi. La maladie va tout d'un coup s'aggraver. Alors c'est vrai qu'une situation de stress particulièrement importante va déclencher probablement une crise encore plus importante.
Et quand celui qui est en stade 3, par exemple, comme Patrice, il peut passer directement au stade 3 et ne pas passer par le 1 et le 2.
Je suis personnellement passée en un mois de temps d'un stade 1 à un stade 3.
Ah oui, d'accord.
Donc
c'est très rapide en plus.
Oui, vraiment très très rapidement. Mais par contre, aujourd'hui, je suis revenue à un stade 1 très léger. Donc pourquoi? Parce que j'ai subi 29 interventions chirurgicales, que j'ai une antibiothérapie à vie.
C'est ce qu'on est en train de suivre Patrice aussi.
Alors je pense que Patrice a une biothérapie, si je ne me trompe pas, Patrice, c'est bien ça? Voilà. Donc il a des anti-TNF-alpha qui sont proposés dans les stades modérés et sévères uniquement, pas dans les stades légers. Et donc c'est le fameux traitement dont vous parlez, Jessica, tout à l'heure aussi, les fameuses perfusions. Alors soit c'est sous forme de perfusion à l'hôpital, soit ce sont des stylos que vous injectez vous-même à domicile.
Patrice, comment vous vous sentez aujourd'hui avec le soutien de la famille, avec les infirmières, comment vous vous sentez aujourd'hui? Le fait d'en parler, parce que je suppose que vous n'avez pas toujours parlé de cette maladie-là, Patrice.
Non.
C'est ça.
Pas toujours. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux, là, un peu libéré.
Oui.
Et avec tout le soutien que j'ai derrière et tout, ça m'aide à avancer. Même si je n'ai plus le droit de travailler à cause de la maladie, je n'arrive plus à travailler. La preuve en est, si jamais je suis en voiture, que je crève un pneu sur la route, je suis obligé d'appeler de l'aide pour venir me la changer. Parce que moi, là, jusqu'à présent, j'ai toujours des dégoûts, des saignements et tout. Et c'est très pénible en ce moment.
Oui, voilà. Marie-France.
Je veux juste peut-être revenir. Patrice, tu peux peut-être dire aussi ce que tu viens de réussir avec la MDPH quand même?
Oui, mais moi, de ma part, j'ai pu faire un grand pas en avant avec la MDPH. Reconnaissance de travail handicapé, si jamais un jour je peux retravailler. Les indemnités de l'AH. Et j'ai aussi la carte debout de stationnement pénible quand je pars faire les courses pour moi et mon accompagnant.
Très bien, très très bien. Donc on abordera effectivement à cette...
C'est important, et c'est rare,
c'est rare d'arriver à
obtenir ce qu'il vient d'obtenir.
Alors c'est rare, c'est-à-dire qu'il faut batailler aussi pour les papiers,
absolument,
c'est ça ?
Absolument, tout à fait, il faut malheureusement batailler, et c'est vrai que même les MDPH, malheureusement, ne sont pas formés, tout comme d'autres professionnels, et du coup ont tendance à rejeter les dossiers un peu facilement, parce que aussi les dossiers ne sont pas du tout adaptés aux maladies de peau, faut le dire.
Alors, Patrice, vous avez mis combien de temps pour avoir obtenir en fait cette reconnaissance?
Ben moi, là, quand j'ai fait la demande, ça fait un an.
Oui, donc c'est un petit peu long quand même.
Parce que le docteur Antoine, il m'a donné le dossier, j'ai fait la demande auprès de lui. Mm-hmm. Et après, il fallait que je parte chez mon médecin traitant pour remplir une partie du dossier. L'autre partie, c'était moi qui le remplissais, et après je suis allé déposer directement à MDPH à Saint-Denis.
D'accord. Et ils vous ont dit, c'est quoi la maladie, qu'est-ce que c'est? Ils se sont posé des questions, quelles ont été leurs premières réactions, on va dire?
Ben moi, leurs réactions, je ne les ai pas bien, parce que je n'ai pas vu les médecins là-bas. Ils ont traité le dossier, et comme dans la maladie, un mot-clé que Dr Antoine il avait bien précisé, et a priori, ils ont fait la recherche et ils ont vu que c'était vraiment une maladie à reconnaître.
D'accord. Patrice, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous restez bien à l'écoute, hein, d'accord, de l'émission. On est ensemble jusqu'à 19h. On vous parle de la maladie de Verneuil, juin violet, avec les mairies des communes qui s'illuminent en ce moment en violet. On va le savoir pourquoi en deuxième partie d'émission, pour prévenir, pour sensibiliser, encore une fois, faire de la prévention et puis être là à vos côtés, faire du dépistage aussi également. Pas mal d'actions prévues par l'association AFRH qui est avec nous. La présidente Marie-France Bru d'après, et Marc-Antoine Bru, le couple idéal. Franchement, je vous adore. Non, je vous adore, mais vraiment, l'accompagnant plus de 30 ans et avec ces difficultés-là. C'est ça l'amour, en fait.
C'est ça
l'amour.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend où vous positionnez la maladie dans votre couple. Nous, on a décidé de positionner la maladie derrière et pas devant. Et c'est tout le problème, c'est comment vous allez positionner la maladie par rapport à ce que vous êtes. La maladie n'a aucune raison de vous changer. Quand vous êtes vous-même, la maladie, elle vient en plus. Elle peut effectivement vous bonifier ou au contraire vous abîmer. mais la personne, elle reste. Marie-France a toujours été Marie-France. Après, elle est malade de Verneuil. Bon, bah, très bien. Bah, on va faire avec. Ça ne change rien. Ça nous a donné peut-être, probablement même, une plus grande ouverture d'esprit, une volonté d'être peut-être plus empathique. Voilà, ça fait partie de ces choses. Mais ça n'empêche rien. Si le couple est solide, il est solide.
On revient avec vous et nos invités, Marie-France Bru d'après pour l'AFRH et Marc-Antoine Bru, l'association AFRH. Donc on parle de la maladie de Verneuil jusqu'à 19h. Vos réactions au 02 62 99 2000. Pour l'heure, nous partons sur la route avec Dominique du CRGT. Juin violet, nos mairies s'illuminent en violet. Pourquoi? On le sait maintenant. Hein, pour sensibiliser à la maladie de Verneuil. Mal connue des médecins et du grand public, cette maladie de Verneuil concernerait 10 000 personnes ici atteintes de cette maladie ici à La Réunion. Comment détecter? Comment accompagner au mieux les malades au quotidien? On s'explique avec vous et nos invités jusqu'à 19h sur la première.
17h-19h, on s'explique. Vos appels au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000.
Alors nous avons Marie-France Bru d'après avec nous, la présidente de l'association AFRH, et puis Marc-Antoine Bru qui est avec nous. Alors il nous dit son accompagnant, son mari, son quoi encore? Comment on peut vous qualifier? Son confident? Alors on a dit son psychologue.
Son psychologue, sa béquille de temps en temps.
Sa béquille, oui.
Voilà, c'est celui qui est avec.
Bravo.
Voilà. Mmh. Donc, à partir de là, c'est bon.
On est admiratif, admirative, pardon, avec Tatiana. Vous avez vu comment on vous regarde en mode...
Plein d'amour.
Ah ouais, un homme précieux. Hein. Ouais. C'est un homme précieux. Hein. Tatiana, sur les réseaux sociaux, ça commente.
Tout à fait. Paul incite les personnes souffrant de cette maladie à en parler sans avoir honte. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'hygiène, tient-il à préciser. Lucie déplore, elle, un manque de formation des dermatologues concernant cette maladie, encore trop peu connue, souligne-t-elle, et c'est bien dommage. Et enfin, une internaute nous confie vivre très difficilement cette maladie. Elle a honte de sortir, s'interdit les relations amoureuses et se sent seule. Mais grâce à votre émission ce soir, Jessie, Anna se sent, sait qu'elle n'est pas un cas isolé. Elle pose la question suivante à nos deux invités. Comment se fait-il qu'on ne parle pas autant de la maladie de Verneuil que l'on peut parler du cancer ou de toute autre maladie?
Très bonne question. On a un peu répondu tout à l'heure, d'ailleurs, Marie-France. Hein.
Oui, un petit peu. Mais ouais. C'est vrai que justement, on est en train, je pense, de tenter de briser justement cet isolement médiatique qui entoure cette pathologie. Et ça, c'est l'objectif premier de Jean Violet, c'est vraiment la mise en lumière de cette pathologie. Et en faisant ça, je pense que chaque année, puisque on en est à la deuxième édition de Juin Violet, je pense que chaque année, on va informer de plus en plus de public. Et donc, du coup, j'espère que les grands médias, peut-être que Juin Violet, la Tour Eiffel, pourquoi pas l'année prochaine en violet.
Toronto, moi j'ai vu des photos.
À Toronto, vous avez les chutes du Niagara en violet.
C'est ça.
Bah oui.
Donc, apparemment, l'association que vous présidez, elle date pas d'hier non plus. Hein,
Non, c'est un peu comme la maladie. Non, ouais. Quand même pas autant.
On parlera de cette maladie au travail parce que c'est un handicap oui. Invisible. Comme c'est un peu compliqué quand c'est invisible. Hein. On parlera, bien sûr, de cette prise en charge administrative. Alors là aussi, c'est un petit peu galère. Aïe, hein. Patrice, il a galéré, il l'a dit tout à l'heure avec son témoignage. Oui. On parlera de tout ça donc en deuxième heure, mais on aimerait peut-être plus vous connaître, Marie-France, en tant que présidente de cette association qui date pas d'hier, qui date de quand d'ailleurs ? Depuis très longtemps.
Elle a été créée le 9 février 2000.
2000, donc ça fait 22
ans. On vient de fêter
ans.
Nos 22 bougies. Mmh. Ah oui, on est majeurs.
Oui, j'allais dire vacciné, plus que ça.
Oui, aussi.
Mais du coup, c'est venu.
Alors pourquoi l'avoir créé peut-être?
Voilà. Oui, c'est
alors,
ça. Oui.
Déjà parce que je suis moi-même atteinte de la maladie de Verneuil. Voilà. Vous l'avez compris tout à l'heure, je disais que j'étais passée rapidement de stade 1.
Ouais.
À l'époque, j'étais donc... je suis attachée de recherche clinique maintenant à la retraite. Mais donc, c'est vrai que quand je me suis retrouvée vraiment à passer de ce stade 1 pour lequel j'avais déjà subi une intervention chirurgicale, je pensais être tranquille. Quand je me suis retrouvée comme ça en un mois de temps en stade 3, eh bien, j'ai subi une exérèse totale des creux axillaires, ensuite greffe, encore greffe, l'autre creux axillaire, etc. Et donc j'ai commencé l'enchaînement des chirurgies larges, puisque c'est une des... disons, un des traitements favoris pour la maladie de Verneuil, c'est la chirurgie. Et c'est vrai qu'avant, on ignorait qu'en mettant une antibiothérapie multiple combinée, on pouvait refroidir justement cette zone inflammatoire et donc réduire la taille des interventions que l'on pouvait faire. Donc c'est vrai que les chirurgies, quand elles sont faites en période de poussée, malheureusement, deviennent des chirurgies très larges et assez délabrantes. Oui. Donc, vous avez vu, je crois, quelques photos qui, en effet, montrent ce que la chirurgie, quand on est dans des stades très sévères, peut devenir. Et c'est vrai qu'on parlait, la jeune Anna, je crois, si j'ai bien compris, disait, on parle beaucoup du cancer. Quand on enlève un sein à une femme pour une maladie de Verneuil ou qu'on l'enlève pour un cancer du sein, l'état psychologique de la femme est le même. Je veux dire, on ne sait pas, mais on est quand même, on a cette mutilation qui fait que on se dit bon, mais pourquoi parle-t-on pas de cette pathologie quand même? Parce que quand même les chirurgies qui l'accompagnent sont véritablement délabrantes, et donc du coup le patient va se dire non seulement je suis malade, je ne peux pas le montrer parce que on n'en parle pas, je ne peux pas l'expliquer.
Du coup, il y a un véritable isolement qui se crée autour de ces patients qui déjà souffrent dans leur chair, souffrent par les interventions multiples qu'ils subissent.
Alors, on a eu un témoignage tout à l'heure, qui était quand même assez fort. Je me refuse à des relations parce que j'ai honte de mon corps, finalement. Bah,
vous-même dit que c'est extrêmement douloureux, déjà. Tout le monde a eu un jour un bouton quelque part. Oui. Et quand on le touchait, on savait très bien que c'est extrêmement douloureux. Et que quand il se vide, waouh!
Ouais. C'est la libération.
On est libéré, enfin. Ouais. Voilà.
Et là, il ne se vide pas complètement. Hein,
non, il
ne
se vide
facile,
pas. Vous savez, je vais vous dire une petite anecdote. Imaginez que vous ayez un ballon de baudruche sous la peau. Et puis, il se gonfle, il se dégonfle, il se gonfle, il se dégonfle. Ben, c'est ça. Un abcès de Verneuil. En fait, c'est un abcès qui va se gonfler, se dégonfler. Mais tant que vous ne l'enlevez pas, ce ballon de baudruche, il pourra gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler. Donc déjà, vous avez compris.
Et tout ce que ça implique, l'infection,
bien évidemment,
etc.
Entre-temps, voilà. Et en plus, pour compliquer la chose, faut imaginer ce petit ballon de baudruche sur une toile d'araignée, par exemple, en trois dimensions. Vous avez donc ce petit ballon de baudruche, il est à l'intersection des fils. Et en fait, ce petit ballon, parce qu'il a envie de... Il veut pas être tout seul, il va créer un trajet fistuleux, donc il va faire un réseau. Et à l'intersection suivante, il refait une petite abcès. Mmh. Et donc, en fait, c'est un système de connexion entre abcès qui fait que la maladie va se propager. C'est ce que vous disiez, pourquoi on passe. Oui. En fait, c'est tout simplement qu'un abcès fait un trajet fistuleux qui refait un autre abcès, etc. Et ça fait à la fin un énorme placard.
Alors, tout ce que vous décrivez là au boulot, je vous raconte pas. D'ailleurs, on va en parler en deuxième heure, si vous voulez bien. Merci Marie-France. Oui. Vous restez bien avec nous, puisque on va accueillir Delphine Gérard pour l'information. Je vous rappelle, nous parlons de la maladie de Verneuil. Vous pouvez bien sûr réagir et témoigner aussi également au standard de la première au 02 62 99 2000.
17h-19h, on s'explique avec Jessie Michel.
Et on s'explique sur la maladie de Verneuil jusqu'à 19h sur la première. 10 000 personnes atteintes ici à La Réunion. Une pathologie très peu connue. Comment au mieux la détecter? On l'a vu depuis 18h avec nos invités. Et en deuxième heure, on va se poser la question comment accompagner au mieux les malades au quotidien et surtout dans le milieu professionnel. Nos invités, l'association AFRH avec Marie-France Bru d'après et Marc-Antoine Bru, ils sont avec nous en studio. Vos réactions, vos questions, vos témoignages au 02 62 80. 99 2000.
17h-19h, on s'explique. Vos appels au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000.
La maladie de Verneuil, on a décidé d'en parler ce soir, de briser la glace, de briser le tabou qui entoure cette maladie. On rappelle très brièvement, Marie-France, comment on la détecte finalement, cette maladie de Verneuil? Pas facile, hein?
Non, pas facile, mais enfin si, le diagnostic lui par contre l'est. Donc ce sont trois questions. Vous arrivez-vous d'avoir des abcès? Avez-vous au moins deux fois des abcès en 6 mois? Et sont-ils localisés préférentiellement au niveau des aisselles, au niveau de la zone de la poitrine, au niveau de la zone génitale, derrière les oreilles, la nuque?
On a beaucoup de réactions, et notamment celle d'Alice. Alice qui souhaite intervenir dans cette émission. Bonsoir Alice.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue sur la première.
Bonsoir.
Oui, alors la maladie de Verneuil, que ça me parle, oui. Alors moi, j'ai la soixantaine maintenant. Si ça peut donner un petit message d'espoir, la maladie, moi je ne la connais plus, cette maladie. Je l'ai connue, j'avais la trentaine. Et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Il y a 30 ans de cela, on ne savait même pas ce que c'était. C'était des furoncles, tout simplement. Moi, c'était au niveau de la poitrine, sous les seins. Et le médecin, qu'est-ce qu'il faisait? Il me dit, il faut drainer ce qu'il y a dedans. Alors, vous allez chez l'infirmier, il va vous mettre des mèches. Alors, c'est ce qu'on me faisait. On incisait, on mettait des mèches, on enlevait tout ce qui pouvait être enlevé. En fait, tout le pus pour parler crûment. Et j'en souffrais beaucoup parce que ça me brûlait. Et puis, c'est là où passe le soutien-gorge. Alors là, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile à supporter. Et jusqu'au jour où un dermato a diagnostiqué la maladie de Verneuil. Et il m'a donné un traitement médicamenteux, bien sûr, un antibiotique. Que j'ai pris pendant des mois et des mois. Alors, un peu dangereux quand même parce qu'il fallait faire attention de ne pas être enceinte. Alors, c'était des prises de sang à chaque fois pour vérifier. Et puis, au fur et à mesure, on va dire, c'est parti. Alors, tout en sachant que ça reste dans l'organisme, en fait, ça reste dans notre corps, et il m'a bien expliqué que ça peut ressortir à tout moment. Il suffit d'un grand stress. Bon, heureusement, jusqu'à maintenant, j'en ai plus. Il restait des cicatrices, bien sûr, parce que là où on n'arrêtait pas d'inciser, parce que j'en avais plusieurs, hein, mm-hmm. quand même sous le climat mer, là, on va dire. Mm-hmm. Et on m'a même conseillé de faire une chirurgie des seins pour alléger, pour pas que ça, parce que ça macère en fait. C'est la macération qui fait que ça forme.
Oui, parce qu'on est bien d'accord, c'est sous le sein et le pli, en fait. C'est dans le pli.
Oui, enfin, un petit oui. peu. Juste en dessous, quoi.
En dessous, quoi.
Un centimètre en dessous. Et donc, bon, je suis. Aujourd'hui, on n'en parle plus de cette maladie. Enfin, pour moi, en tout cas, elle n'existe plus. Mais c'est sous-jacent. Bon, vu mon âge, je ne pense pas que ça va revenir. J'espère que non. Parce qu'à l'époque, ben, je travaillais, bien sûr. Et c'était pas facile tous les jours. Hein.
Ah ben justement, parce qu'on va aborder, Alice, eh bien, cette maladie, hein, cette pathologie dans le milieu du travail. C'est pas facile. Alors, on parlait de crise tout à l'heure, mais quand il y a des crises, c'est compliqué. Comment on fait?
Eh ben oui, on n'en parle pas, on cache, et puis on supporte, et puis voilà. Et puis, comme je vous dis, quand j'ai commencé à prendre le médicament, ben ça a séché, enfin, ça a fait sécher tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et au fur et à mesure, on a vu que ça se réduisait, et puis ça, voilà, c'est parti comme ça. Mais il faut des mois, il faut être patient, souffrir aussi en même temps, et je reconnais que c'est une... Alors, à l'époque, bien sûr, c'est une maladie, bon, on m'a dit une maladie rare, bon, on n'en fait pas cas, parce que...
Marie-France n'est pas d'accord quand vous dites une maladie rare, je la vois réagir. Oui,
à l'époque, il y a 30-35 ans, maladie. D'ailleurs, les médecins, les généralistes, ils savaient même pas de quoi. Moi, j'ai regardé tout de suite dans les encyclopédies parce qu'il n'y avait pas Google et compagnie comme aujourd'hui.
Ah bah oui, non, il y a 35 ans, non.
Voilà, moi, j'allais regarder dans les encyclopédies et en effet, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, oh là là, ben oui, c'est bien ce que j'ai. Et ça m'effrayait encore plus. Mais bon, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Et j'espère que les personnes qui en souffrent, eh ben, j'espère pour elles que ça va aller aussi. Voilà. Et je suis bien contente qu'aujourd'hui on en parle, parce que à mon époque, enfin il y a 30-35 ans de cela, eh ben, on n'en parlait pas, on savait même pas ce que c'était et on souffrait. Voilà.
Donc maintenant vous êtes contente qu'on mette un nom dessus, quoi. On visualise, on informe et puis surtout, voilà. On propose le diagnostic et là avec l'association donc du dépistage, hein, même, hein, du dépistage. Ça veut dire qu'on prend ça en amont là maintenant. Voilà.
D'accord. Et ben voilà. Alors autre le dernier petit point que je voulais rajouter, c'est génétique. Enfin, malheureusement, là, apparemment, mes enfants l'ont aussi, parce que c'est bon, voilà. Et donc, comme maintenant je sais ce que c'est, je leur en parle et j'ai un de mes enfants qui est sous traitement également. Et voilà. Hein,
quand vous parlez de traitement, Alice, est-ce que c'est un traitement lourd? Est-ce qu'il y a des complications?
Oui, ben, il faut faire attention. Comme je vous disais tout à l'heure, pas de grossesse, bien sûr, parce que c'est dangereux. C'est un médicament qui reste quand même dangereux sous surveillance. C'est par voie orale.
Il y a des effets secondaires au traitement?
À l'époque, je me souviens, parce que non, en tout cas. Je vois pour mon fils pareil, non, rien de spécial. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça assèche vraiment. Alors, il ne faut pas aller au soleil et tout ça. Ça assèche vraiment la peau. Et d'ailleurs, on a une belle peau, le visage, etc., même si on n'a pas eu de la maladie de Verneuil sur le visage, mais on avait une belle peau.
Il y a quand même un message d'espoir là, de la part d'Alice. Hein.
Oui,
Alice, vous avez, justement, en parlant de message, quel message vous avez à passer aux personnes qui sont atteintes de cette pathologie?
Moi, c'est le dermato qui m'a soignée, finalement. Hein.
Ici, à La Réunion.
Oui, bien sûr, à La Réunion. Mais c'est connu maintenant. Ce médicament, il est connu. Il a changé de nom, mais ça reste la base est la même. Enfin, l'excipient, je ne sais pas comment on dit. mais les dermatos savent c'est maintenant comment on peut soulager la personne. Enfin,
Marie-France, elle connaît. Marie-France,
je pense que c'est ça doit être de l'isotrétinoïne, probablement.
Je n'arrivais pas à dire le mot. Non. C'est
et
ça.
On appelait ça le roi cutane à l'époque et c'est le curacné maintenant. C'est un médicament en fait qu'on donne pour l'acné. Donc ça, en fait, ce médicament marche dans les formes folliculaires de la maladie de Verneuil. Il y a plusieurs formes en fait d'hidrosadénite ou de maladie de Verneuil. Et donc, en effet, il marche chez certains patients. C'est vrai ce que dit cette dame, c'est Anna, je crois, si je me
Alice.
Trompe. Alice, pardon, Alice. Alice, donc, en effet, c'est un traitement qui est tératogène. Donc, il faut vraiment, pour les garçons comme pour les filles d'ailleurs, il ne faut absolument pas procréer quand on le prend. Il faut se protéger du soleil. Ça sèche les muqueuses, etc. Donc, c'est vrai qu'on a une belle peau, puisque c'est fait justement pour les traitements de l'acné.
D'accord.
Normalement, voilà. Donc, c'est vrai que ça marche chez certains patients. Maintenant, elle a très très bien exprimé le fait que, en effet, comme le lui a dit son dermatologue, quand la maladie est présente, que génétiquement vous l'avez, vous la maîtrisez, mais vous n'en guérissez pas. Voilà.
Non,
donc,
non.
Mais elle est avisée.
Je n'en ai plus.
Voilà.
Mais il m'avait expliqué une fois que l'âge est pour quelque chose aussi. Plus on prend de l'âge, plus moins il va réapparaître, quoi.
Alors ça, c'est dans la forme que vous avez, voilà.
Oui.
Et c'est chanceux parce que bon, j'ai 63 ans, je peux pas dire la même chose que vous. Donc voilà.
Alors, en plus,
donc
on a qu'il y a
notre témoignage. Voilà.
Plusieurs maladies.
Non. Voilà. En fait,
voilà,
il y a plusieurs formes de la maladie de Verneuil. Donc c'est vrai que pour certains, disons que la ménopause ou l'andropause pour les hommes vont à permettre, disons, une amélioration de la maladie, comme on le dit, c'est dans vos gènes, elle est toujours là, mais il va y avoir une amélioration. En plus, les traitements que vous prenez, si vous les prenez sérieusement, bien évidemment, vont évidemment aussi vous aider.
Ça va s'améliorer.
Voilà.
Alice, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci énormément.
Je vous écoute avec attention.
Oh, c'est gentil, jusqu'à 19h, on continue d'en parler, en tous les cas, de cette maladie, la maladie de Verneuil. Au revoir Alice, merci beaucoup. Marie est avec nous aussi pour réagir. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui,
bonsoir.
Marie. La maladie de Verneuil, on vous écoute.
Oui, par rapport à la maladie de Verneuil, donc du coup, j'ai pris l'émission en route. Et j'ai entendu la maladie de Verneuil et tout de suite, j'étais contente que vous discutiez dessus parce que moi-même, je suis assujettie donc, à cette maladie, au kyste. J'ai été opérée à plusieurs reprises donc, sous les aisselles, au même endroit, et au niveau de l'aine aussi. Et effectivement, cette maladie, elle n'est pas connue. Aujourd'hui, je ne savais même pas qu'il y avait une association qui existait. Donc,
ça va changer, ça, hein, parce que ça bouge. Hein.
Ça y est, maintenant, vous savez qu'on est là.
Oui, voilà. Donc, j'ai regardé sur Google votre association.
Cool. Alors, je rappelle, pour les autres, je rappelle, Marie, attendez, donc, bougez pas, je rappelle, c'est l'association AR...
AFRH.
AFRH.
Pour française. Bah oui.
Voilà.
Oui, on est français.
AFRH, hein, pour tous ceux qui sont curieux et puis d'aller voir sur la page, parce qu'ils ont une page bleue, hein.
Oui.
AFRH. Oui. Oui, Marie.
Et très contente d'entendre donc les personnes qui parlent et tout. Parce que c'est vrai que je connais pas d'autres personnes qui l'ont. Mmh. Moi, c'était après donc ma grossesse. 10 ans.
Mm-hmm.
Et c'est apparu à plusieurs reprises. Donc, je rentrais souvent à l'hôpital. Je faisais souvent des interventions.
Et ça a commencé comment, Marie, sur votre corps? Ça a commencé comment?
Sous les aisselles.
Sous les aisselles.
Une très grosse boule. Et c'était gênant. Pareil, il y a eu les mèches. C'est parti. C'est revenu 6 mois après. Donc, sous mon bras, là, il y a 2 grosses cicatrices. Bon, après, je suis avec. Et à un moment donné, on me disait, c'est parce que je faisais des épilations sous le bras. Donc, on croyait que c'était un poil incarné. Et donc, voilà. J'ai eu un traitement. Bon, maintenant, c'est moi. Et c'est vraiment, comme a dit la personne avant moi, c'est lorsqu'on a un très gros stress. Donc, il faut être zen.
Oui, ben voilà, ben oui.
C'est ça.
Et plus on est zen, et moins on en a.
D'accord.
Et les médecins, donc moi, ça a été détecté en métropole. Hein. J'ai été opérée en métropole à La Réunion 2 fois. Maintenant, bon, j'en ai pas, mais dès que je sens une boule ou quelque chose, je mets de l'exomédine.
Mm-hmm.
Donc, Voilà. Et au niveau du travail, pendant que j'étais à la maison, je ne pouvais pas aller travailler. Cette maladie, donc, j'ai pu la... elle est reconnue par la MDPH. Donc, j'ai fait un dossier. Et aujourd'hui, ça va faire 10 ans, je suis reconnue par rapport à cette maladie-là.
Très bien. Donc, elle est reconnue par la MDPH, visiblement.
Toutes les MDPH sont indépendantes, hein, c'est ce qu'il faut savoir.
Oui, mais donc, là, visiblement, Marie, vous parlez de la MDPH ici à La Réunion.
Oui, oui, mais d'accord. J'étais déjà en métropole et après, je refais mon dossier ici. Ils ont reconnu la maladie.
Ah, d'accord.
Et je suis.
D'accord.
Donc.
C'est une bonne chose, ça dépend voilà, des régions. Il y en a, heureusement, qui reconnaissent quand même. Patrice nous l'a prouvé tout à l'heure.
Donc à La Réunion, ils reconnaissent.
Hein. À La Réunion, ils l'ont reconnu aussi.
Voilà.
Hein. Oui, okay. J'ai fait le dossier.
On est les meilleurs, c'est bien
maladie.
Connu.
Donc, pour toutes les personnes qui ont cette maladie, il faut prendre le mal en patience, avoir moins de stress. Je ne sais pas comment, mais avoir moins de stress.
Oh,
mais
on a plein d'idées dans l'association, ne vous inquiétez pas.
Ah, puis voilà.
Oui. Voilà. Pour avoir moins de stress.
Et au niveau du travail ou au niveau des rapports et tout, c'est vrai que c'est gênant. C'est très gênant. Et franchement, aujourd'hui, je suis contente qu'on en parle. Parce que je ne savais même pas qu'il y avait d'autres personnes qui en avaient. Parce que quand des fois, je dis oui, je suis reconnue RQTH parce que par rapport à mon travail, on me demande pourquoi. Je dis la maladie de Verneuil, mais ils ne connaissent pas.
Oui, ça
va. Je suis obligée d'expliquer.
Oui.
Non. Donc, je suis obligée de m'expliquer, mais après, voilà, ça passe. Et voilà, quoi.
Marie, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Hein. Et puis, je pense que vous allez être très vite mise en relation avec l'association que préside Marie-France, hein, donc l'association AFRH.
RH,
je ne me suis pas trompée cette fois.
Voilà.
AFRH.
Avec plaisir, Marie.
Merci, Marie. Merci beaucoup.
Merci
pour votre témoignage. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Allez, on repart sur les réseaux sociaux où ça commente de partout. Tatiana.
On a la réaction d'un internaute.
Oui.
Bonsoir. Karl, qui désespère de ne pas avoir trouvé le bon médecin. Il est allé consulter très souvent sans succès de guérison. Selon lui, il faudrait former davantage les dermatologues spécialement pour cette maladie. Il pose la question suivante. Comment se fait-il justement que les dermatologues n'en sachent pas plus au sujet de cette maladie, sachant qu'ils sont spécialistes de la peau?
Ça revient, ça, le problème de formation. Enfin, des gens qui demandent, enfin, des patients qui demandent de...
Tout à fait.
Est-ce que les médecins soient plus formés, Marie-France?
C'est un peu logique. Hein. C'est vrai que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pathologies, il y en a un nombre incalculable. Et les études déjà médicales sont extrêmement longues. Donc, c'est vrai que pour certaines, on passe un peu rapidement. Et la maladie de Verneuil fait souvent l'objet de ce qu'on appelle un enseignement post-universitaire, c'est-à-dire que lors de congrès, etc. Et puis les médecins, certains s'informent, vont justement rechercher quand ils ont... Il y a beaucoup de publications maintenant qui se font sur la maladie de Verneuil. Il y a par exemple les journées dermatologiques de Paris qui se tiennent chaque année au mois de décembre. D'ailleurs, notre association y tient un stand chaque année. Et donc, c'est vraiment dédié à tous les dermatologues du monde entier qui viennent sur Paris, ce qui nous permet de rencontrer énormément de médecins, d'informer. On constate chaque année une augmentation de publications et de communications qui se font sur la maladie de Verneuil. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il existe en France un réseau qui s'appelle Réseau Verneuil, qui est donc un site qui est partenaire de notre association aussi. On travaille enfin en collaboration. Et en fait, c'est un réseau qui est constitué de médecins experts de la maladie de Verneuil et de différentes spécialités, non seulement des dermatologues, mais aussi des chirurgiens, aussi des généralistes. Voilà, il y a donc tout un tas de médecins spécialisés autres que les dermatologues qui traitent les Verneuil. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'antibiothérapie qui va précéder une chirurgie quelquefois et souvent même. Donc du coup, bien évidemment, les chirurgiens sont aussi des experts de la maladie de Verneuil.
Alors le soutien au travail, le soutien administratif, alors on le voit et c'est une bonne nouvelle, hein, Marie qui nous dit oui, non, l'MDPH reconnaît. Alors je voyais tiquer quand même à deux, trois
non,
coups.
Bah, parce qu'on a beaucoup plus de témoignages de gens qui justement ne sont pas reconnus. Et ça fait plaisir en fait d'avoir des témoignages
des retours,
qui vont dans le sens opposé. Et on se dit que peut-être que le travail
porte ses fruits et que donc en
vous
effet
accompagnez là alors ça on nous arrive parle d'accompagner des personnes qui sont pas encore reconnues, c'est ça?
Alors on essaye en tout cas de les accompagner, de leur donner des conseils. Au niveau des MDPH, il y a souvent quand même des gens qui vous aident à compléter les dossiers. Par exemple, sur notre site internet, on avait par exemple fait on a fait une petite fiche sur, par exemple, ne serait-ce que la prise en charge à 100%. Avant la MDPH, déjà, ce qui concerne tout le monde, c'est aussi la prise en charge à 100%. Parce qu'il y a un reste à charge pour les patients qui est non négligeable. Tout à l'heure, la dame disait qu'elle était méchée. Il faut savoir que les mèches ne sont pas remboursées. On vous met des mètres de mèches dans les abcès. Mmh. Et ça a un coût non négligeable. Mmh. Je pense que vous aurez peut-être une auditrice tout à l'heure, Gaëlle, qui vous en parlera. Elle a cette expérience, elle nous en parle très bien. Et c'est vrai que ce reste à charge est terrible. Donc, on conseille aux patients, puisque nous sommes dans le cadre d'une maladie chronique, donc de faire une demande de prise en charge à 100%, ce qu'on appelle une ALD.
Oui.
Donc une allocation longue durée, absolument. Mmh. Mmh. Mais c'est une allocation longue durée affection. Hors charge, une affection donc de longue durée hors liste. Donc c'est ce qu'on appelle une ALD 31. Voilà. Et donc là, il faut vraiment très bien renseigner le dossier, parce que si on le renseigne mal, et c'est ce que nous expliquait un médecin donc de la Sécurité sociale qui traite ces dossiers, il dit pour peu que ce soit mal exprimé, on rejette le dossier. Donc on a une petite fiche sur notre site, donc avec l'intervention de ce médecin qui justement explique comment présenter un dossier pour qu'au moins la prise en charge à 100% soit prise en effective, de façon quoi. Effective pour la plupart des patients.
On parlait de Gaëlle, ben elle est là.
Ah ben,
Gaëlle, bonsoir.
Ben
voilà. Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir.
Oui, bonsoir Gaëlle. Ben, on parlait de vous à l'instant justement, vous tombez bien. Alors oui, ben, le parcours du combattant et de la combattante visiblement dans certains cas alors.
Exactement, ben, moi je suis malade de Verneuil depuis maintenant 15 ans. Je suis aussi ambassadrice et secrétaire de la FRH depuis quelques années. Mmh. Et c'est vrai qu'avant de rencontrer Marie-France et la FRH, moi j'étais en errance médicale, pas de diagnostic, alors que je connaissais cette maladie très bien, puisque mon papa était atteint et j'ai lutté pendant des années pour me faire reconnaître. Et c'est ma rencontre avec Marie-France qui m'a permis d'avoir ce diagnostic enfin.
Mmh. L'errance médicale, où c'est fort ça quand même. Ouais, ça veut dire que là on est un peu ballotté, ils savent pas, c'est ça, hein, c'est ouais. On met un point d'interrogation.
On a parfois même des, dans mon cas comme dans ceux de plusieurs malades, des médecins qui ne connaissent pas cette maladie et on fait face au jugement.
Eh oui, ouais, c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué.
Moi, j'ai eu à plusieurs reprises, on m'a dit avec un peu plus d'hygiène, ça irait mieux, que ce n'était qu'un petit bouton, que voilà quoi.
Bah, un petit bouton où il faut une mèche quand même. Si...
Oui.
Hein, c'est, on parle de mètres et de mètres de mèche.
Oui. Et oui.
Et non prise en charge, c'est ça, Gaëlle?
Alors, moi, j'ai été pendant très longtemps donc non diagnostiquée. J'ai beaucoup galéré pour avoir l'ALD 31, ce qui fait que en 2014 j'ai été opérée au pli interfessier. En 2010, puisque c'était la nuit de mon mariage, et j'ai été opérée au pli interfessier. Je n'avais pas d'ALD. J'ai eu un an de soins post-opératoires, un an pendant lequel j'ai dû payer moi-même les mèches. Le sérum FI qui servait pour nettoyer la plaie.
Alors attendez, vous êtes en train de nous dire que les médicaments, enfin en tout cas ce qu'il faut pour soigner, pansements et compagnie, on n'était pas remboursé, c'est ça?
À ce moment-là, oui, c'était pas remboursé.
D'accord. Ouh, c'est compliqué vraiment, hein, parce que là, il faut avoir aussi des moyens d'acheter ces produits.
Sur un an, j'ai dû dépenser environ 5000 euros.
Ouais, quand même, hein. Ouais. Mais ça a changé, ça a évolué un petit peu, Marie-France, ou pas?
C'est surtout
suite
que maintenant,
voilà,
en fait, c'est vrai que maintenant, après une intervention chirurgicale, normalement, tout ça est censé être pris en charge, voilà, en soins post-op. Maintenant, il existe encore beaucoup de traitements qui sont pris de moins en moins en compte. Voilà, qui sont de moins en moins bien remboursés, voire plus remboursés. C'est ce qu'on appelle traitement, voilà, qui reste à charge pour le patient, comme les démangeaisons, les crèmes. Quand vous prenez des antibiotiques, on vous dit il faut vous protéger du soleil, par exemple, simplement une protection solaire n'est pas prise en compte. Voilà, et or c'est important, c'est capital aussi de se protéger du soleil quand vous avez certaines thérapies.
L'association bataille un petit peu pour ça, enfin un peu beaucoup.
On se bat beaucoup.
Un peu beaucoup.
Je vais vous dire même la plus grosse bataille que l'on ait menée, je vais vous citer, c'est il existe le traitement dont parlait Jessica ou parlait c'est Patrice. Donc les biothérapies,
lourd,
voilà,
oui.
Un peu plus lourd, tout à fait. C'est en fait le seul traitement qui est ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, une AMM, avec l'indication maladie de Verneuil. Cette indication a été obtenue en 2015. Donc, nous étions tous très contents. On s'est dit, enfin, un médicament pour la maladie de Verneuil, même si c'est que pour les stades modérés, donc 24% des malades et sévères 1% des malades, donc c'est-à-dire 25% des malades. Malgré tout, ces malades-là sont donc les plus sévères. Avoir cette possibilité de traitement qui ne guérit pas, mais qui soulage, était importante. Et nous nous sommes retrouvés avec la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui a refusé le remboursement. Donc, c'était le seul pays au monde qui refusait de rembourser donc ce traitement qui s'appelait donc Humira. Et on est monté au créneau. On a écrit bien sûr au ministère de la Santé avec le concours donc d'autres associations, Réseau Verneuil, etc. Et puis même la Société française de dermatologie. On est allé jusqu'au ministère de la Santé et au bout de 4 ans et demi, donc depuis avril 2021. Il y a eu une révision donc de ce remboursement. Il est à présent remboursé à 15%. Alors juste pour vous dire, c'est une double dose pour la maladie de Verneuil. Chaque dose coûte 984 euros. Vous imaginez que personne n'est susceptible de pouvoir se payer un tel traitement, même en étant très riche. Franchement,
deux fois par mois.
Tout à fait.
Tous les 15 jours.
Voilà. Donc, si vous voulez, c'est bien évident que là, on monte au créneau.
Oui.
Ça fait partie de notre rôle, c'est ce qu'on appelle la défense des malades. D'où l'importance aussi, d'ailleurs, je vais en profiter pour expliquer aux gens qu'une association, ça sert à ça. Et que quand on adhère à une association, quand on la soutient, on lui donne du poids. Et on a besoin de ce poids pour justement quand on va voir les laboratoires pharmaceutiques, quand on va voir l'ARS, quand on va voir la HAS, ou quand on essaye simplement de les défendre sur des dossiers, il faut avoir un certain poids. Voilà, on est en pleine élection électorale qui ne dira pas que justement le fait de peser peut faire changer les choses.
Oh, bah c'est fini normalement.
Hein,
là.
Voilà.
Enfin, presque.
Non, mais presque.
On verra.
Mais c'est vrai. Mais voilà, c'est d'où l'importance de s'unir, tout simplement, pour pouvoir justement avoir des répercussions sur nos demandes. Voilà.
Gaëlle, merci beaucoup en tous les cas d'avoir témoigné pour la première ce soir dans cette émission consacrée.
Si vous me permettez, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Marie-France. Effectivement, aujourd'hui, moi, je suis ambassadrice et secrétaire de la FRH. Et dans toutes les démarches que je mène au nom de la FRH, aujourd'hui, on me demande... Vous avez combien d'adhérents dans votre association? Donc, on ne peut pas avancer, nous, si on n'a pas d'adhérents, parce que ce poids, c'est le nombre d'adhérents.
D'accord. Bon, ben ça, c'est le clou, hein, Gaëlle, enfonce le clou.
En tant que trésorier de l'association, je ne peux pas...
Il ne va pas dire le contraire.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas pour l'argent.
Non.
La cotisation est à 10 euros. Donc, c'est pas ça qui va. Nous, ce qui est important pour nous, c'est le nombre.
Le
nombre est important et plus on est écouté.
D'où notre slogan, tous unis pour vaincre Verneuil.
Et ben justement, on va consacrer la fin de cette émission à vos mobilisations, à vos actions passées, futures aussi, parce que le mois de juin n'est pas terminé. Et puis, surtout les projets. Les projets qui se profilent.
Absolument.
Alors, différentes actions qui ont été menées. Alors, on le voit, il y a des mairies. Alors, on ne peut pas citer les mairies, mais donc les mairies qui ont décidé de mettre une belle couleur violette sur leur mur le soir.
Oui.
Ça fait partie des actions.
Et c'est beau en plus.
Et c'est magnifique.
Franchement,
c'est très joli.
C'est très beau. On a des photos qui. Et en plus, ces photos, il faut savoir qu'elles ont un hashtag qui est Illuminate for HS, qui est un hashtag international. Ce qui fait que ces photos voyagent dans le monde entier. Donc, il y a des sites, hein, quand vous avez ce hashtag, vous regardez. Donc, il y a les fameuses chutes du Niagara dont on parlait. Mais au milieu, il y a nos mairies, il y a l'île de la Réunion, et qui est en très, très bonne position cette année, puisque nous avons, je crois, ces 7 communes cette année. Il y en avait 2 l'année dernière, 7 cette année. Et ben, j'espère que l'année prochaine, il y aura 24.
Certes, elles sont illuminées, on a des très jolis murs violets, mais est-ce que, je veux dire, il y a des messages qui passent, c'est-à-dire sensibilisation, attention, on est illuminé parce que. Ça veut dire qu'on va aller sur les actions.
Alors, les actions, donc les actions, en fait, c'est vrai que le fait d'illuminer, ça interpelle.
Oui, parce que ça interpelle.
Certes, donc, automatiquement, on essaye d'informer aussi les communes pour qu'à l'accueil.
Qu'il y ait une transmission quand même de.
Ils sachent ce qu'il en est.
De la sensibilisation.
Donc, pour certains, on leur offre donc notre petit Vernou qui est à l'accueil. Donc, vous avez la peluche là, ici. Donc, c'est une mascotte de l'association qui est normalement remise dans les infirmeries. Et les infirmeries scolaires pour informer les enfants, justement, les lycéens, les collégiens. Mais bon, c'est vrai que le message, il est important. Si on illumine en violet et qu'on ne fait rien d'autre, on n'avancera pas. D'où aussi la tenue de stand dans chacune de ces communes qui donc éclairent donc, en juin en violet leurs hôtels de ville. Ou des spots intéressants. On a un flamboyant aussi qui est magnifiquement éclairé à Brapanon, en plus de l'hôtel de ville. Mais c'est vrai que les stands, ce sont des stands d'information. Donc, au profit donc de la population, ce sont des stands de soutien et d'écoute pour les malades qui, tout d'un coup, entendent parler de la maladie de Verneuil, qui se disent, tiens, une association, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire? On leur donne des documents, on les informe, on leur donne des noms de spécialistes.
Alors, on a abordé l'isolement tout à l'heure, c'est dans ce cadre-là aussi.
Hein, voilà. Absolument. C'est leur expliquer. Alors, c'est vrai que la Covid étant passée par là, nous avions pour habitude d'organiser des pique-niques, généralement, pour pouvoir se rencontrer, et notamment avec les familles.
On va remettre ça au goût du jour, des pique-niques?
Ah ben oui, ça y est, on est reparti. Le dernier, c'était pour notre journée mondiale, le 6 juin à l'Ermitage. Voilà, et on a bien l'intention de repartir sur justement ce côté convivial, dynamique, et qui va permettre de rassembler les familles et aux familles aussi d'écouter d'autres malades. Parce que quand on entend que son malade, je dirais, se plaint toujours de la même chose, on a l'impression que des fois il en fait un peu trop.
Mais pour les autres, parce que fini d'entendre du genre « oui, t'arrêtes de nous saouler avec des boutons
». On en a marre de ça, donc il faut bien jouer. Donc dit que quand on entend que l'autre, il dit « moi aussi j'ai la même chose, moi aussi j'ai ci, j'ai ça », finalement on donne du poids aussi aux autres malades, et on n'a pas besoin de parler, ce sont les autres qui parlent pour vous. Donc très très intéressant, ces petits cafés-rencontres, ces pique-niques-rencontres.
Essentiel.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on a ces stands, donc l'information et le dépistage qui accompagnent également.
Dans quelques instants, on parle de vos projets. Et là, je me tourne vers Marc-Antoine. Alors lui, Marc-Antoine, c'est, si je vous dis électro-care,
c'est quoi électro-care? C'est deux choses.
On parle des projets après.
Oui. C'est deux choses. Electrocare est avant tout une association de promotion du véhicule électrique à La Réunion. Vous voyez, a priori. Et puis, donc, c'est au cœur de l'électrique. Nous avons décidé, quand nous avons créé l'association, qu'il fallait donner du sens à notre action. Certes, il faut informer les gens sur le véhicule électrique, sur la transition énergétique, bien entendu. Mais se retrouver entre gens convaincus n'avait de sens que si on allait vers les autres. Et les autres, on a choisi de le faire de façon caritative. Et c'est pour ça que, une à deux fois par an, j'organise un rallye véhicule électrique solidaire, ce qu'on appelle le rallye VE solidaire, qui cette année va se passer à Sainte-Suzanne le 26 juin prochain, qui est un rallye touristique de découverte du patrimoine réunionnais, pour lequel je sollicite des partenaires, de gros partenaires, qui nous donnent un peu d'argent. Et cet argent, je le distribue aux associations caritatives. C'est notre façon à nous d'apporter notre petite pierre à l'édifice. La FRH en fait partie, mais pas que. Puisque là, 3 associations du village santé de Sainte-Suzanne seront bénéficiaires d'un petit chèque pour leur présence. Et puis le reste, on soutient aujourd'hui 2 associations. La FRH déjà d'une part, et une autre association qui s'appelle le Vaincre du Nigan. Et puis l'année prochaine, j'espère en rajouter une 3e. Et puis ensuite, une 4e. Voilà,
c'est une action.
J'offre à ceux qui s'inscrivent un t-shirt, la couleur violet. On est toujours dans le thème.
Et la couleur.
Voilà, c'est notre façon à nous de contribuer un peu à aider toutes ces associations et tous ces bénévoles qui se battent pour différentes pathologies et qui ont besoin de moyens aussi, parce qu'il leur faut des moyens et qu'ils n'en ont pas. Bah oui. Et donc, c'est...
Donc, 26 juin à Sainte-Suzanne.
26 hein, juin, Sainte-Suzanne, Rallye VE Solidaire 2022, Sainte-Suzanne.
Et donc, Trucker.
D'ailleurs, oui. Dans la presse, dans un des journaux de Lille, oui. Journal de Lille La Réunion, pour ne pas le nommer, je suis désolé de le dire, mais pendant toute la semaine, tous les deux jours, ils mettent l'affiche du Rallye VE, ils nous l'offrent. Ils nous offrent la publicité.
Très bien. Bien, allez, les projets, dans quelques instants, parce qu'il me semble avoir vu passer une trousse. Oui, et vous expliquerez un petit peu, Marie-France, entre autres, bien sûr.
Entre autres.
La trousse, hein, donc on va voir, la trousse de secours. On y va.
17h-19h, on s'explique. Vos appels au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000.
Marie-France Brudapret, donc l'association AFRH Marc-Antoine Bru. Vous étiez nos invités en studio pour nous parler de la maladie de Verneuil, des retours hein, de personnes. On a eu des personnes atteintes de cette maladie, de cette pathologie qui nous ont dit merci d'en parler. C'est important, donc en parler, sensibiliser par des actions, par des mobilisations de l'association. On va voir les projets maintenant et on parle de cette trousse Verneuil. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette trousse, Marie-France ?
Alors la trousse Verneuil est un projet, donc c'est-à-dire que pour l'instant, oui. En fait, non, c'est l'idée, c'était d'offrir quelque chose aux gens qui viennent d'être opérés, parce qu'on sait que ce sont des gens qui vont se retrouver en grande détresse quand ils vont rentrer chez eux. Souvent parce que justement, comme je vous l'expliquais, c'est assez délabrant.
C'est ça, c'est une trousse voilà. De secours.
Et en fait, ce sera une trousse dans laquelle qui va leur suivre tout le temps, parce que tous les Verneuil le savent bien, on ne se déplace jamais sans notre trousse, oui. Avec dedans des compresses, des pansements et les médicaments, les traitements que l'on doit prendre. Donc, aucun Verneuil ne se déplace sans ça. Trousse Verneuil, d'où le nom Ma Trousse Verneuil, avec un très joli logo. Et on recherche, et là je lance un appel ce soir, à des partenaires pour trouver de quoi la compléter. Ça peut être les compresses, des urinoirs féminins debout pour ne pas souiller les pansements quand on sort d'intervention chirurgicale. Ce sont des protections solaires pour quand on a des antibiothérapies, des gels pour les lèvres quand les traitements sont un peu lourds. Enfin voilà, tout des petits échantillons qui pourraient rentrer dans cette trousse. Bien évidemment, chaque sponsor sera noté à l'intérieur de la trousse dans un petit carton pour préciser qui a offert quoi. Et nous remettrons cette trousse dans les centres donc hospitaliers où sont effectuées les interventions chirurgicales. Et on espère que ce sera une nouvelle forme de communication aussi qui sera partagée, reprise peut-être par les médias et qui sera encore une fois l'occasion de parler de la maladie de Verneuil. Mais on est à fond dans la communication
aussi,
et en même temps dans le soutien des malades. Voilà.
Ma trousse Verneuil.
Bon, et voilà, on espère pour décembre, peut-être pour Noël.
Un petit appel du pied pour tout ce qui est matériel,
ça cool.
Pour donner un petit coup de pouce.
N'hésitez pas à nous contacter.
Et que cette trousse arrive très rapidement en tous les cas pour accompagner les patients et les malades, bien sûr. Autre projet, Marie-France.
Alors oui, rapidement, je vais peut-être citer les dates jusqu'à la fin de juin violet. Donc déjà dès demain, il y a une visioconférence sur l'hypnose médicale appliquée dans le cas de la maladie de Verneuil par rapport aux douleurs. C'est un médecin qui nous fera cette conférence sur internet, donc accessible à tous. Elle aura lieu donc à 19h en métropole, donc 21h pour nous, ça durera environ une heure et les gens pourront poser des questions à l'issue. Ensuite, il y aura le 24 a été annulé, j'en profite pour le dire, malheureusement Andy Caravan est annulée à Saint-Denis. Le 25, nous serons à Saint-Jean sur la place de la mairie. Le 26, nous serons à Sainte-Suzanne avec le fameux rallye électrocaire aussi.
Et, ouais.
Et nous serons enfin le 29 à l'étang salé devant la place de la mairie également. Voilà.
Et puis on a Marc-Antoine qui souffle.
Et oui, il souffle.
Marc-Antoine.
On a fait beaucoup, beaucoup de choses tout ce mois de juin. Donc c'est vrai qu'on arrive en bout de course. Mais que les gens viennent nous rencontrer, on sera ravis de parler, de les aider, voire de dépister ceux qui peuvent avoir des soupçons sur cette pathologie.
Alors, pour bien sûr, en plus, voilà, le dépistage qui est proposé hein, sur tous les points de rencontre, et ça, c'est important. Se faire dépister, effectivement, si vous avez le moindre doute, il y a les trois questions de diagnostic. Hein, c'est pas d'autres questions, c'est trois
questions, absolument.
On rappelle avant la fin de l'émission, très rapidement,
alors, c'est donc, vous arrive-t-il d'avoir des abcès ? Avez-vous au moins deux crises en 6 mois ? Et enfin, sont-ils localisés préférentiellement dans les zones que sont les aisselles, la poitrine, les zones génitales, derrière la nuque ou derrière les oreilles ?
Un Facebook pour prendre toutes les informations, un site internet ?
Nous avons un Facebook, le site internet www.afrh.fr ou www.vinc-verneuil.fr. Ensuite, Facebook, c'est AFRH, une association sur la maladie de Verneuil. Et nous avons un groupe donc, qui compte près de 7800 malades. Donc un groupe secret sur les gens, dans lequel les gens peuvent parler librement.
Un forum,
voilà,
de groupe, etc.
Tout à fait.
Merci beaucoup, merci à vous, hein, Marie-France et Marc-Antoine. Ah, oui. L'association AFRH pour les patients, les malades de cette, de cette pathologie, hein, la maladie de Verneuil. On a fait un petit peu plus connaissance. Dans quelques instants, c'est le journal de Christelle Fleury-Court. Il sera 19h.
Merci, Jessie.